Europe 1.
On va avancer. J'aimerais qu'on évoque maintenant la situation en Ukraine et la réponse de la France à l'agression russe. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a pris la parole hier. Il estimait que Emmanuel Macron ne prenait pas la mesure de la dangerosité de Vladimir Poutine. On va écouter ce que dit Monsieur Mélenchon et puis on va en débattre ensuite sur le fait que voilà, est-ce que la France doit encore augmenter sa riposte militaire pour soutenir l'Ukraine. Écoutons Mélenchon.
Je pense que le président ne se rend pas assez compte du fait que M. Poutine est réellement dangereux. Il l'est parce que c'est un homme à sang-froid, très calculateur, et qui inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Si le président Macron comprenait qu'il a affaire à quelqu'un de très dangereux, qui ne se laissera pas impressionner par 3-4 phrases, ou il ne jouerait pas la partie comme ça. Il la jouerait d'abord en essayant d'avoir le plus de monde possible à chaque fois qu'on avance d'un pas. Et notamment, c'est pas partir tout seul comme ça, menacer tout le monde, à dire on va envoyer du monde à terre, etc.
Voilà pour Jean-Luc Mélenchon, François Pupponi. Alors, oui, on sait tous que Poutine est dangereux.
Il ne fallait pas coudu, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que, effectivement, moi, j'étais avec un ami serbe hier soir qui connaît bien aussi la Russie, il m'expliquait, mais vous ne vous rendez pas compte. Il est capable de faire ce qu'il dit. Mm-hmm. Il l'a fait pour l'Ukraine. Il est capable de faire ce qu'il dit. Les Russes avancent.
Il nous annonce la troisième guerre mondiale.
Justement, un argument à l'inverse.
Oui, je veux dire par là, c'est que quand il. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut aller le provoquer dans ce cas-là, Emmanuel Macron, il va jusqu'au bout. Mais si c'est uniquement mettre un peu la pression pour un peu faire peur à Poutine.
Dans la déclaration et dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, elles ont été dans le détail décortiquées par un certain nombre de spécialistes en géopolitique ou d'experts militaires. Elles sont fausses, ils se trompent dans le nombre de troupes qu'ils nous prêtent. Bref, ils se trompent sur beaucoup de choses. J'imagine d'ailleurs avec une bonne dose de mauvaise foi et pas seulement d'ignorance ou d'incompétence. Mais moi, quand j'entends justement cet argument-là, j'ai envie de dire précisément, ça ne fait que plaider pour la fermeté. Quelqu'un qui serait capable de toute façon de faire peser une menace existentielle en permanence sur l'Europe ou sur les démocraties occidentales. Évidemment qu'il ne faut pas le provoquer, évidemment qu'il ne faut pas devancer, s'engager dans une escalade ou provoquer la guerre en soi.
Oui, mais il ne faut pas s'aplatir non plus à la moindre menace.
Mais bien sûr, on l'a vu, c'est une règle quasi implacable de l'histoire, du continent européen. Quand on n'est pas capable de prouver et de se donner les moyens, parce qu'il ne suffit pas de le dire, et c'est là où il y a une grande limite à la posture d'Emmanuel Macron, mais quand on n'est pas capable de prouver qu'on est aussi prêt à assumer la guerre, non pas parce qu'on désire, mais parce qu'on sait que c'est le seul moyen d'éviter justement d'être anéanti par des gens qui en veulent à nos modèles de société,
Céline Pina.
En fait, le problème, c'est que si on doit être réaliste jusqu'au bout, la question de la guerre n'est pas morale, elle est matérielle. Donc la question, c'est quels sont les moyens que nous avons pour faire la guerre. Et sur un certain nombre de points, on ment aussi énormément. C'est-à-dire que quand on affiche notre matériel, on affiche même le matériel qui ne fonctionne pas. C'est génial comme ça.
Et quand on fait l'état de nos stocks, c'est
bien sûr. Il y a quand même pas mal.
Céline, honnêtement, tous les pays le font.
Oui.
Il n'y a pas un pays qui a commencé par la Russie.
Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la question de la vérité, de savoir exactement où en sont nos stocks, elle est un petit peu plus compliquée que traiter l'un ou l'autre de menteur. Mais surtout, si la Russie est une puissance moyenne, alors nous ne sommes même plus une puissance. Il faut voir aussi à qui on parle, et même s'il ment également sur ce qu'il a, ce qui est sûr, c'est que lui, il est en économie de guerre. Ce qui est sûr, c'est que
nous n'y sommes pas. Absolument.
Donc il faut aussi arrêter dans ce type de délire.
Okay.
Moi, je suis pour... si on veut être crédible face à la Russie, on fait comme l'Allemagne. L'Allemagne, elle ouvre pas sa grande bouche, mais elle est en train de réarmer, elle est en train de fabriquer des munitions, elle est en train de réorganiser un peu sa production. Nous, on l'ouvre grand, on ne fait rien derrière.
Les Français, il n'a pas de ligne directrice, un coup il est pacificateur, un coup il est réconciliateur, après il va à l'offensive, et ensuite dans son discours pour les Européennes, il nous les explique que c'est l'Ukraine qui est la guerre, enfin qui est au centre de tous les maux. Donc je pense qu'il n'est pas du tout cohérent, il n'est pas soutenu non plus par les autres membres de l'Union Européenne, et c'est très inquiétant.
Non, c'est faux. C'est faux. Si vous regardez les États baltes, un certain nombre d'États de l'Est de l'Europe sont sur cette ligne de fermeté.
Pas l'Allemagne. Non, il dit envoyer des troupes, mais pas tous les pays. Voilà, pas l'Espagne. Donc pas tous les pays.
L'Allemagne. On ne peut pas dire que l'ensemble de nos partenaires européens, il y a des divisions en Europe.
Oui, moi je trouve
d'être aussi ferme. Pardon.
Alors Eugénie Bastier, celui qui est très naïf, c'est Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Vladimir Poutine, puisque son discours consiste depuis le programme de la France insoumise en matière de défense, c'est ne pas vouloir le 2% de PIB qui est l'objectif fixé par l'OTAN et qu'on arrive à peine à atteindre et qui est, je rappelle que la Russie, ils sont à plus de 6% du PIB en défense. Donc c'est absolument minimaliste et vital. Donc on peut pas dire d'un côté Poutine est dangereux, de l'autre désarmons-nous. Ou alors c'est vraiment qu'on veut pour le coup l'aplatissement généralisé. Enfin, faut choisir le discours. Soit on dit Poutine est faible et on n'a pas besoin de s'armer. Mmh. Et si on dit Poutine est dangereux, alors on a besoin de s'armer. Et le discours de la France insoumise, c'est un discours de désarmement généralisé. Oui. Ils veulent même
policiers, militaires.
Ils veulent même affaiblir la dissuasion nucléaire française. Mmh. Ils proposent un désarmement. Donc voilà, c'est un discours.
Pas de cohérence
très
sur ce discours. Louis Dragnel.
Je trouve qu'il y a deux sujets par rapport à ça. C'est un, la cohérence, c'est ce que vous avez évoqué. On peut pas dire le lundi, on restaure l'ambiguïté stratégique et on envisage d'envoyer des troupes au sol. Et le vendredi, faire intervenir un ministre pour dire aux Français, surtout, attention, il y aura pas de troupes au sol, vos enfants seront protégés. Sauf si on pense que les services de renseignement russes ne suivent pas l'actualité médiatique en France. Oui. Mais donc, le message envoyé à l'égard du Kremlin est quand même assez faible de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a une question de fermeté. Aujourd'hui, les Américains, s'ils tombent sur des espions russes, des agents du renseignement russe, que font-ils? Globalement, ils judiciarisent, ils interpellent et ensuite ils négocient avec les Russes. Nous, qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur eux? On les expulse du territoire. On n'ose pas les garder. On n'ose pas les garder, on n'ose pas judiciariser et négocier. Et donc, en fait, Vladimir Poutine voit tout ça et joue de ses faiblesses. Et aujourd'hui, on voit bien, Vladimir Poutine est devenu, et objectivement, Emmanuel Macron, en fait, a peur de Vladimir Poutine parce qu'il est devenu très menaçant pour le pays. Multiplication des cyberattaques, multiplication aussi des fausses informations, et ça a été certifié cette semaine par les services de renseignement français, notamment sur le fait que la France envisageait, était sur le point d'envoyer réellement des troupes en Ukraine pour combattre l'armée russe. Donc les services ont travaillé là-dessus, ont pu remonter jusqu'au service de renseignement extérieur russe. Et enfin, la troisième chose, c'est que la Russie, les Russes ont réussi à prouver aussi qu'ils avaient gardé un savoir-faire en matière de ce qu'on appelle le compromat, la compromission, avec la révélation, la publication de cet échange entre le chef d'état-major de l'armée allemande et ses subordonnés dans un hôtel qui critiquait ouvertement la position du chancelier allemand. Et aujourd'hui, on sait que ce qui est le plus craint maintenant par les autorités françaises, c'est le compromat, c'est-à-dire vrai ou faux, mais une histoire de compromission politique, absolument, impliquant et déstabilisant en tout cas l'unité du pays.
L'analyse de Louis Noragnel. Allez, il est 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Mathieu.
Une marche blanche organisée cet après-midi à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Plusieurs centaines de personnes présentes lors de ce rassemblement à l'initiative de la famille de Wanis. Le cortège, ça y est arrivé à Aubervilliers, sur les lieux du drame où ce jeune de 18 ans est mort la semaine dernière dans une collision avec une voiture de police après un refus d'obtempérer. Près de 3 tonnes de cocaïne ont été saisies au port du Havre. La marchandise se trouvait dans un conteneur en provenance de Guadeloupe. La police judiciaire est chargée des investigations, l'acheminement par voie maritime est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France avec 75% des quantités saisies. Enfin, les transports en Île-de-France perturbés le 4 avril prochain. La CGT de la RATP appelle tous les salariés à la grève en cause des augmentations de salaire trop tardives selon le syndicat. Il déplore notamment que l'augmentation de salaire de 100 euros ne soit effective qu'à partir de janvier prochain.
Merci Mathieu Devez. Encore un mot sur la réponse française face à l'agression russe en Ukraine. Le général Pierre Schill a fait une tribune il y a quelques jours dans la presse pour dire « L'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs. Le fait savoir et le démontre. La dissuasion nucléaire sanctuarise ses intérêts vitaux. » Excusez-moi Louis Dragnel, c'est quand même pas rien de dire ça alors que les Russes sont en train de nous menacer de Troisième Guerre mondiale.
Moi, je...
Oui, alors vous allez me dire que c'est alors... de la mousse ?
Non, mais c'est quelque chose qui est dit dans toutes les revues stratégiques, qui est dit à chaque débat de loi de programmation militaire. Après, si le chef d'état-major de l'armée de terre prend la parole spécifiquement là-dessus, oui, c'est pour insister sur ce message. Mais rappeler la sanctuarisation de la dissuasion nucléaire, rappeler qu'on se prépare aux conflits de haute intensité.
Bon, rien de nouveau sous le soleil.
Et juste parce que tous les journalistes cherchent à avoir les scénarios de les armées. Non, mais juste un petit mot là-dessus. Tous les journalistes cherchent à récupérer à l'état-major des armées les scénarios de projection de l'armée française.
Notre travail.
Et en fait, il y a une équipe qui, depuis toujours, à l'état-major des armées, qui s'occupe de travailler sur ce qu'on appelle la planification. Et donc, ils envisagent plein de scénarios avec des guerres nucléaires et tout ça. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du travail d'anticipation. Mais
le problème, c'est que l'on montre les muscles devant Poutine, qui est l'enjeu. C'est le problème, c'est qu'on le fait seul. Oui. C'est ça la difficulté.
Et sans armes.
Ça serait une réponse européenne. Là, ça pourrait avoir du poids.
Bah oui.
Mais là, c'est de la France.
Alors, il y a quand même les exercices otaniens avec 90 000 soldats.
Bien sûr que personne ne peut douter
des
conséquences d'années de sous-investissement dans la défense européenne, du fait que nous ayons été convaincus que nous étions sortis de l'histoire. Mais enfin, ça n'empêche pas que la totalité des budgets de défense de l'Union européenne, c'est supérieur au budget de défense russe. Donc, je ne vous dis pas que...
Oui, la totalité, oui.
Mais, oui, mais de toute façon, la menace existe. La menace, elle existe quoi qu'il en soit, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise, que nous adoptions une ligne mélanchonienne, une ligne macronienne. De toute façon, la menace insoumise, tout le monde refuse cet état de fait. Vous avez entendu hier l'arrière-petite-fille de Léon Tolstoï qui disait « Nous sommes en train de calculer pour faire une frappe nucléaire sur Paris ». Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on m'explique beaucoup de choses.
C'était pas un militaire.
À partir du moment... Non, mais c'est aussi une forme de bluff. Mais à partir du moment où la Russie exprime ça, s'en est pris aussi à Gabriel Attal en évoquant la décadence de l'Occident, en raison de sa vie, personnelle. Mais oui, mais enfin, cette menace-là, elle existe. On peut quand même vraiment pas faire comme si ça n'existait
elle
pas.
Elle existe et on la prend très en compte. Et on va parler maintenant de la menace terroriste, parce qu'elle existe aussi sur le sol français, à la fois la cybermenace et la menace d'attentat. Marc Trévidic sera notre invité dans un instant, ancien juge antiterroriste. À tout de suite sur CNews et Europe 1.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.